9h.
L'ours et la carotte.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, nous sommes encore au Salon des maires pour montrer des exemples, pour montrer des choses à faire pour les maires ou pour vous qui voulez vous engager dans les municipalités près de chez vous, dans les communes, ou faire bouger un petit peu les lignes autour de chez vous. Et j'ai envie de vous présenter cette semaine quelque chose. On se dit à premier lieu, il ne s'agit pas d'écologie, et pourtant, vous ne regarderez peut-être plus pareil ces panneaux qui, à l'entrée de pas mal de villes et villages en France, présentent les villes et villages fleuris avec une, deux, trois ou quatre petites fleurs qui montrent le degré d'engagement. On croit souvent que c'est au nombre de bégonias qui sont plantés que les choses se forment, mais pas vraiment, c'est un label. Et alors que je trouve très intéressant parce que finalement, on amène l'écologie par un côté où on n'annonce pas de l'écologie et puis finalement on met la main dedans et on finit par y mettre le bras. Je vous présente aujourd'hui Julien Fèvre, qui est directeur du Conseil national des villes et villages fleuris. Bonjour Julien Fèvre.
Bonjour.
C'est quoi l'origine quand même? On va parler un petit peu de cette origine. C'est quoi les villes et villages fleuris? Combien de villes et villages en France adhèrent?
Alors c'est un label historique, villes et villages fleuris. C'est un label qui a été créé en 1959 à l'initiative du ministère du Tourisme dont il dépendait. Il était géré à l'époque par des agents du ministère du Tourisme et puis sous patronage du ministre, attribué dans les territoires par les préfets et sous-préfets. Donc c'était vraiment une organisation très nationale. On est en 59, on est dans une France de l'après-guerre, de la reconstruction, et la philosophie de départ, c'est vraiment d'embellir les communes, de les rendre plus attractives, plus agréables à travers les fleurs, à l'image un peu des balcons fleuris de l'Alsace. Et puis progressivement, c'est un label qui a su, je dirais, s'adapter à son époque, anticiper aussi les grands bouleversements, changements climatiques auxquels on assiste tous. Aujourd'hui, je dirais que le fleurissement, ça représente une partie certes importante de notre grille d'évaluation, on a pour habitude de dire 25%, mais il y a toute une partie de gestion durable des espaces qu'on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Au total, c'est 4700 communes qui sont labellisées de 1 à 4 fleurs, et puis au niveau 4 fleurs, qui est le niveau le plus élevé du label, nous en avons cette année 309 qui ont atteint ce niveau-là, ce qui est assez peu au regard des quelques 35-36 000 communes de France. Mais en tout cas, c'est vraiment une jauge intéressante pour nous parce que ça nous permet d'assurer un suivi qualité auprès des communes, puisque chacune est évaluée tous les 3 ans dans son propre niveau de labellisation. Donc on accompagne les communes.
Et l'écologie est une condition pour monter en fleurs, qui est souvent une fierté pour la commune. C'est-à-dire qu'une fleur, on va dire, on peut faire pas grand chose, juste embellir le cadre de vie. Par contre, si on veut monter à 2, 3, 4 fleurs, là par contre il faut avoir cet engagement dont on va parler.
Alors tout à fait, on a un référentiel technique, une grille d'analyse de 70 critères qui est cette grille commune à l'ensemble des différents niveaux de labellisation. Ce qui va différencier, c'est-à-dire c'est votre niveau d'engagement, comme vous le disiez, selon tel ou tel aspect, s'il est inexistant, si au contraire il est conforté ou initié. Et bien sûr l'écologie, j'allais dire même la gestion durable des espaces en fait largement partie. On va parler aussi bien de protection de la biodiversité, est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont mises en œuvre par la commune.
Comment déjà sur la végétalisation, qui est la base du label, vous avez rajouté des enjeux environnementaux? C'est quoi? C'est par exemple éviter les îlots de chaleur, c'est le choix même des végétaux qui est en jeu, c'est tout à la fois?
Absolument, c'est tout à la fois. Comme je vous le disais, c'est un label qui, alors, a 65-66 ans d'existence et je pense n'a jamais été autant d'actualité. Et pour ce faire, c'est un label qui s'est toujours adapté à son temps, à son époque. Je prends par exemple la question de la gestion de la ressource en eau, puisqu'aujourd'hui ça fait vraiment partie des sujets majeurs. Planter c'est bien, mais de quelle manière on va derrière entretenir, arroser son patrimoine végétal? La question de la ressource en eau, chez nous, elle est intégrée dans notre référentiel technique depuis les années 90. Donc, j'allais dire, on n'a pas attendu les sécheresses récurrentes pour se poser la question. Et je pense que c'est cette adaptation et cette réactivité, cette proactivité même, qui nous permet aujourd'hui de proposer un label vraiment global, une démarche d'évaluation globale des politiques publiques à l'échelon local. C'est-à-dire que vous êtes une commune, vous avez envie d'améliorer durablement votre cadre de vie, vous ne savez pas trop par quel biais commencer, et bien le label, c'est vraiment un super outil qui peut vous y aider.
Alors sur le choix des végétaux, on en parlait, et de la ressource en eau, ça va être par exemple de dire mettez plutôt des vivaces, c'est-à-dire des plantes qui vont s'enraciner, qui vont réussir à vivre par elles-mêmes, des végétaux locaux, plutôt que des plantes qui vont avoir besoin d'arrosage massif pendant l'été.
Alors ce qui est sûr déjà, c'est que nous, on n'oppose pas plantes annuelles horticoles à plantes vivaces durables. Bon, il faut un tout, vous voyez, c'est une harmonie globale. Et dans l'ensemble des critères de la palette végétale, on va regarder aussi bien si c'est des vivaces, de la pleine terre, s'il y a des bulbes, des annuels, bisannuels, des plantations de l'année, des plantations annuelles. On va regarder aussi la strate arborée, la strate arbustive, très importante pour la biodiversité, les plantes couvre-sol, très importante aussi pour garder de la fraîcheur au pied des végétaux, les plantes mellifères, nectarifères. Donc c'est vraiment toute cette démarche globale qui est prise en compte dans la partie palette végétale. Et puis pour en revenir à votre question, bien sûr que nous, on préconise d'éviter, enfin en tout cas de favoriser la plantation pleine terre avec des plantes, j'allais dire, robustes, durables. Mais pour autant, si vous avez un peu de plantes annuelles qui viennent ponctuer, j'allais dire, colorer votre massif, c'est pas gênant. En fait, ce qui va compter, c'est la capacité de la ville à entretenir ce patrimoine. Est-ce qu'elle a la ressource en eau suffisante? Est-ce qu'elle a les moyens techniques, humains, matériels pour ce faire? C'est ça que vraiment nous, on regarde. Plutôt que d'imposer, vous voyez, un modèle un peu standard qui serait duplicable sur l'ensemble des territoires. Chaque territoire est différent. Et ce que nous, on veut mettre vraiment en avant, c'est cette valorisation de l'identité locale de chaque territoire.
Comment vous aider, comment vous accompagner les élus à agir pour protéger la biodiversité?
Protéger la biodiversité, c'est quelque chose de très vaste. On va regarder par exemple si les communes ont des ruches, mettent en place, du fauchage tardif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans de la gestion des espaces qui est très différente de ce qu'elle a pu être par le passé. On n'est plus sur les pelouses extrêmement bien tondues parce qu'on sait que, en cas de...
Ce sont des déserts de biodiversité. Et en cas de forte chaleur, ça meurt très vite.
Absolument, vous avez parfaitement résumé. En cas de forte chaleur, ça meurt très vite. Donc voilà, nous, on préconise, on tend, on invite les communes à tendre vers ce modèle-là parce qu'on sait que c'est le modèle qui est le plus durable sur le long terme.
Et c'est à leur avantage pour faire des économies et pour gérer intelligemment leur commune.
Et absolument, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce que moi, je connais assez bien les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités territoriales en termes de ressources humaines, de ressources financières. Vraiment, c'est leur dire, voilà, vous voyez, vous pouvez gérer vos espaces autrement, ça va vous gagner du temps, ça va vous coûter pas forcément plus cher. Et derrière, c'est bon pour la planète, quoi.
Alors vous avez aussi un volet, j'ai vu, de désimperméabilisation des sols. Comment vous les incitez à désimperméabiliser leur sol?
On les invite à désimperméabiliser leur sol, en fonction aussi des espaces et de leurs projets. Vous savez, très très longtemps, on a pensé l'urbanisme des villes avec le tout béton.
Et le tout propre.
Et le tout propre. Et quand il restait un peu de place, on se disait, tiens, on va mettre un espace vert. Quand il était vert, on avait de la chance. Et maintenant, ce à quoi on assiste, en tout cas chez nos communes labellisées, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire, vous avez un maire qui veut refaire un espace public. Il va déjà regarder, il va déjà faire une étude d'impact. C'est-à-dire, voilà, je veux refaire cet espace-là. Quel impact ça peut avoir sur la vie, sur la biodiversité autour? Et puis, sa deuxième préoccupation, ça va être de dire, je veux le végétaliser, je veux l'arborer pour créer des îlots de fraîcheur et rafraîchir ma ville. Parce que l'arbre, c'est quand même le meilleur climatiseur urbain. On n'en parle pas assez, mais c'est quand même très vrai. Finalement, après, comment j'adapte mon urbanisme autour de tout cela? Et c'est vraiment ce changement-là de paradigme auquel on assiste chez nos communes et qu'on invite à faire. Créer des noues paysagères pour favoriser l'écoulement des pluies et arriver à garder naturellement l'eau. Vous avez aussi des systèmes technologiques très performants pour arroser au goutte à goutte avec des sondes thermiques les végétaux, pour vraiment avoir uniquement la bonne quantité d'eau au bon endroit, parce que l'eau, c'est l'or bleu de demain, hein, on le sait, même d'aujourd'hui. Et le végétal aussi s'est beaucoup adapté depuis ces dernières années, parce que la filière professionnelle, on travaille nous aussi beaucoup avec, on ne travaille pas directement, en tout cas les communes travaillent beaucoup avec leurs pépiniéristes locaux, leurs horticulteurs, et beaucoup maintenant adaptent le végétal en fonction de ces contraintes environnementales. Hein, je veux dire, le végétal, quand il est planté maintenant, naturellement, il est habitué à avoir moins besoin d'eau pour pousser.
Alors vous avez commencé à en parler de l'adaptation au changement climatique et du rôle des arbres pour climatiser les villes. Il y a aussi, on voit dans certaines villes fleurir des plantes grimpantes au bas des immeubles. C'est une autre des solutions de végétaliser les façades des rues avec des plantes grimpantes pour climatiser et rendre les intérieurs moins chauds en été.
Absolument, parce que vous avez aussi un contexte local parfois dans des villes très architecturales, qui est ce contexte qui fait qu'en fait on ne peut pas végétaliser autrement que verticalement, donc en pied de façade, en pied d'immeuble. Et ça, c'est oui, bien sûr, c'est quelque chose que nous on encourage. Ça permet aussi aux riverains d'être partie prenante de la démarche, d'entretenir, j'allais dire, le morceau d'espace vert qu'ils ont devant chez eux, et beaucoup sont friands de cela. Voilà.
Ouais, on a vu, enfin j'ai vu l'exemple d'une ville qui, en fait, les citoyens qui désiraient une plante grimpante sur leur façade, ils faisaient un trou, sur des rues étroites en général, la commune fait un trou, offre la plante, même souvent du choix de l'habitant, et voilà, et tout le monde est content.
Et vous avez aussi beaucoup de villes qui développent des permis de végétaliser, et donc qui permettent aux habitants...
C'est quoi ça, le permis de végétaliser?
Le permis de végétaliser, c'est une charte en général qui se conclut entre la commune et l'habitant pour lui permettre de végétaliser, comme vous dites, un morceau d'espace vert devant chez lui. Alors parfois la commune va jusqu'à fournir les plantes ou proposer un certain type de plantes en fonction de la physionomie de la rue et puis de l'image aussi qu'elle veut renvoyer pour le riverain.
De l'harmonie globale.
Et de l'harmonie globale, absolument. Mais voilà, ce permis de végétaliser, c'est un engagement moral, j'allais dire. Ok, on vous donne, entre guillemets, un espace public à entretenir devant vous, mais il faut l'entretenir, il ne faut pas le laisser à l'abandon.
Ouais, on donne un droit d'usage de l'espace public.
Absolument.
On va faire une petite pause musicale. Julien Fèvre, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter?
Oh bah écoutez, je vous dirais Jardin d'hiver d'Henri Salvador, ce serait en tout cas d'actualité.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut.
Thank you.
dans mon jardin d'hiver.
Alors nous sommes de retour avec Julien Fèvre, donc directeur du Conseil national des villes et villages fleuris. On l'a vu dans cette première partie d'émission, les villes et villages fleuris, c'est plus simplement mettre des fleurs dans des parterres et encore moins dans des bacs suspendus. C'est amener de la végétalisation en ville, c'est désimperméabiliser les sols, c'est rendre les villes plus vivables avec des arbres, avec de la végétalisation. On le voit, ce qui est souvent très difficile pour un maire, pour un élu, c'est d'avoir des projet et d'avoir l'assentiment de la population. Comment vous aidez, vous donnez des outils techniques, et c'est un petit peu votre rôle de donner aussi des outils techniques aux communes. Comment vous les invitez, comment vous leur dites de faire avec les citoyens pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité des projets ?
Alors, vous avez raison, pour qu'un projet soit accepté, il faut que la population soit partie prenante et au cœur du sujet, ça me paraît indispensable. Beaucoup de nos villes qui sont labellisées le font déjà, vous savez. Elles ont soit un budget participatif citoyen, souvent d'ailleurs fléché à la demande des citoyens sur le verdissement d'un espace public dédié. Beaucoup aussi de communes concertent leurs concitoyens en amont des projets, ou leur demandent, voilà, sur telle place, telle espace public, comment voulez-vous l'avoir transformé? Aussi dans les écoles, il y a un gros travail de pédagogie qui est fait auprès des enfants qui sont parfois même associés à certains projets. Je voyais hier une maire qui, ben la maire d'Angers, l'adjointe au maire d'Angers, pardon, qui participait à une table ronde au Salon des maires, une table ronde sur le sujet ville et village fleuri, et qui disait, ben voilà, nous on a vraiment travaillé le sujet avec les enfants dans les écoles, c'est eux qui ont même dessiné ce qu'ils voulaient voir, et ça marche, quoi. La population derrière est partie prenante du projet, elle respecte d'autant plus ces espaces-là, aussi sur la propreté des espaces, ça fait aussi partie de nos critères d'évaluation, donc oui, indispensable.
Et ça rajoute des fleurs sur le petit panneau ?
Ça fait en tout cas partie de notre grille d'évaluation, tout à fait, la concertation citoyenne, les actions pédagogiques qui sont mises en place autour du label. Vous savez, si vous laissez un espace en gestion différenciée, c'est-à-dire non tondu, on va dire, vous allez avoir des remarques de citoyens en disant bah, « ça n'a pas été tondu devant chez moi ». Alors que simplement, si vous apposez un petit panneau en disant « fauchage tardif, je préserve la biodiversité » et qu'on explique derrière, bah, personne ne vous dit rien. Voyez, c'est vraiment ce travail de pédagogie, d'explication qui est à faire auprès de nos concitoyens. Voilà. Mais je trouve que maintenant, ils sont quand même de plus en plus sensibilisés à la cause également.
Est-ce qu'aussi le monde associatif ou des gestionnaires d'espaces, autres, agriculteurs, même professionnels, peuvent être emmenés dans la démarche ou pas du tout ?
Complètement. Ça fait aussi partie là de ce que l'on observe, en tout cas quand on est en jury national ou même régional d'ailleurs. Puisque on va regarder finalement... comment les différents gestionnaires de l'espace public travaillent entre eux. Est-ce que la commune, elle associe son conservatoire botanique? Est-ce qu'elle associe la LPO, par exemple,
Ligue de protection des oiseaux.
Ligue de protection des oiseaux, tout à fait. Son agence régionale de la biodiversité. Voilà, comment tous ces acteurs, en fait, de l'environnement sur ce même territoire sont associés à la démarche et sont partie prenante. Également aussi les autres collectivités, de quelle manière elles travaillent avec son intercommunalité, sur la question souvent de la gestion des déchets, par exemple, puisque les gestions des déchets sont souvent de compétences intercommunales, voilà, ou même sur la question de l'eau, de l'assainissement, enfin voilà, on regarde comment toutes ces collectivités publiques, ces associations locales travaillent ensemble, et ça aussi c'est un critère très important pour nous.
Vous amenez de la démocratie, du dialogue, c'est formidable, de l'apaisement.
Vous savez, le végétal, c'est un monde apaisé. Hein. On n'est pas dans l'urgence, parce que pour que un arbre pousse, il lui faut du temps. Donc on n'est pas dans l'immédiateté, on est vraiment dans un travail de long terme. Vous savez, on a pour habitude de dire, nous, au niveau national, que les arbres qu'on plante aujourd'hui, c'est pour protéger le monde de demain. Bien souvent, ce n'est pas ceux qui plantent les arbres d'aujourd'hui qui les verront grandir, enfin, ils les verront grandir, mais en tout cas, qui en profiteront le plus, c'est pour les générations qui arrivent. C'est un très beau label, moi, je trouve, qui apporte de l'apaisement, du bien-être, et puis du fond aussi, vraiment.
Alors vous avez commencé à le dire, on plante les arbres pour demain. J'ai découvert récemment, parce que je ne connaissais pas du tout, que vous aviez aussi, vous occupiez aussi du prix national de l'arbre. C'est quoi ? Parce que vraiment, j'ai vu ça rapidement, j'aimerais bien que vous m'expliquiez.
Absolument. Ben, le prix national de l'arbre, c'est un prix que le Conseil national des villes et villages fleuris délivre depuis maintenant 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Ce n'est pas nouveau, avec le fameux arbre de la liberté. Et à l'époque, mes prédécesseurs, en tout cas, et le conseil d'administration du CNVF a eu l'idée de créer ce prix national de l'arbre pour récompenser une commune, non pas pour un ou deux arbres remarquables qu'elle aurait dans sa commune, mais vraiment pour une gestion de son patrimoine arboré dans sa globalité. C'est-à-dire, on va regarder si la commune a des documents supports, planificateurs, si l'arbre est protégé dans son PLU, dans son PLUI, s'il existe une charte de l'arbre aussi, s'il y a une volonté de planter et planter, de quelle manière on plante, à quel endroit. On a assisté ces dernières années un peu à une course effrénée à qui plantera le plus d'arbres. Bon, nous on n'est pas forcément...
La ville de Paris, entre autres, annonce des chiffres pharaoniques.
Voilà. Donc ça, on n'est pas dans ce travail, même s'il y a une urgence climatique qui est réelle, et bien sûr qu'il faut planter des arbres, mais il faut savoir où on plante les arbres, quels arbres on plante, quelles sont les essences les mieux adaptées au contexte local. Est-ce qu'elles sont diversifiées, ces essences-là, pour éviter des fois des
maladies, des ravageurs.
Absolument, des ravageurs. Donc voilà, ce prix, c'est vraiment un prix à part avec un jury dédié qui ne s'occupe que d'ailleurs de ce prix-là, des experts dans le domaine de l'arbre, et qui va évaluer les villes qui candidatent. Là, c'est vraiment une volonté de la ville de candidater pour ce prix-là, qu'elle soit labellisée une à quatre fleurs. Peu importe, cette année on l'a délivré d'ailleurs hier au Salon des maires. Il y a eu 6 lauréats cette année qui ont bénéficié du prix national de l'arbre, dont des petits villages de moins de 3000 habitants. Donc c'est tout à fait possible, et avec également des villes très très urbanisées comme Courbevoie par exemple, ou Pantin. Voilà. Et ça, c'est aussi une preuve forte que l'arbre a vraiment plus que jamais un rôle fondamental à jouer.
Alors, est-ce qu'il y a une belle aventure, une ville que vous avez envie de mettre à l'honneur, par rapport à cette démarche écologique qui a quatre fleurs, hein, j'imagine, et qui fait un beau travail en lien avec les citoyens, en lien avec les associations, en lien avec l'écologie et les habitants?
Alors, ce ne sont que de belles rencontres et que de beaux échanges et vraiment que des projets très motivants. Hein. C'est très difficile de n'en retenir qu'un ou deux. J'ai en tête Rochefort en Charente-Maritime que j'ai évalué cette année avec le jury national qui m'accompagnait. Rochefort, vous savez, c'est une ville patrimoniale très très importante.
Ville de garnison, ville de construction qui a construit l'Hermione, ce bateau de style Louis XIV. Avec la corderie royale, mais une ville avec la maison de Pierre Loti, c'est une très très belle ville, Rochefort, que je connais en effet. Par contre, une ville qui a eu des difficultés, hein, avec l'armée qui s'en est allée, une ville qui a connu beaucoup de pauvreté. Absolument. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Rochefort?
Ils ont fait un travail que j'ai trouvé vraiment remarquable au niveau de la préservation des ressources et de la gestion environnementale, parce que vous savez que Rochefort, c'est le siège national de la Ligue de protection des oiseaux. Donc déjà un travail exceptionnel avec l'ensemble des partenaires publics, associatifs.
C'est-à-dire ils ont fait par exemple là, beaucoup de caches à oiseaux, de lieux pour la reproduction des oiseaux, de nichoirs.
De nichoirs pour la protection de la faune, des oiseaux. Un grand travail aussi avec le conservateur du littoral pour protéger les rives de la Charente. Parce que vraiment la Charente rentre dans les terres, hein, avec le fameux pont transbordeur que l'on identifie, un ouvrage d'art aussi assez exceptionnel. Et Rochefort, effectivement, ils sont passés à 100% de vivaces sur l'ensemble de leur territoire. De la vivace fleurie, on peut fleurir joliment une ville et l'égayer avec de la vivace.
La sauge, par exemple, les sauges, et qui sont très bonnes pour les bourdons.
Oui, absolument, c'est un bon exemple. Parallèlement, vous voyez, Rochefort, c'est le conservatoire national du bégonia, avec plus de 1800 espèces, je crois, référencées sur les 2300 qui doivent exister dans le monde. Donc, vous voyez, on peut...
Et le bégonia, qui est l'enfer pour les écolos, qui est considéré comme le degré zéro de l'écologie.
Et vous en avez plein de sortes de bégonias, hein, qui poussent à l'état sauvage aussi. Donc, vous voyez, c'est cet exemple-là. Moi, j'ai aussi l'exemple de...
On peut changer de regard sur le bégonia.
Ah, oui, oui, absolument. Moi, j'ai trouvé que c'était, en tout cas, que la démarche était intéressante. En tout cas, cette démarche de conservation, en tout cas, était très bonne. Ils ont aussi une zone très importante, je crois, j'en suis sûr, ils ont une zone très importante, zone artisanale industrielle où s'est installé Airbus, qu'ils ont vraiment su préserver. Le maire nous disait, on a vraiment souhaité à ce qu'il n'y ait qu'une seule voie pour les camions, donc c'est une voie unique camion, une voie unique vélo, une voie unique piéton, et tout le reste c'est des espaces naturels. Donc vous voyez, il y a vraiment ce travail de fond qui est fait sur une ville de taille moyenne, voilà, comme on en connaît beaucoup d'autres. Je pourrais vous citer également Millau, que j'ai visité cette année, qui a accédé aussi à la quatrième fleur, comme Rochefort. Millau, ils font un travail assez exceptionnel avec les agriculteurs, au niveau de l'écopastoralisme notamment, puisque ça fait vraiment partie de leur identité, de leur ADN. Vous avez Roquefort, hein, qui n'est pas très loin.
C'est-à-dire ils font paître des brebis dans la ville.
Absolument, dans la ville et puis dans leur espace naturel qu'ils ont à entretenir, parce que le territoire de la commune de Millau est très très grand. Et puis il y a des espaces qui sont entretenus 100% par des bergers, par des agriculteurs. Donc il y a un gros travail sur l'écopastoralisme qui est fait. Je vais même vous dire plus loin, ils vont même jusqu'à pailler les massifs, certains de leurs massifs, avec de la laine de mouton ou de brebis, qui en tout cas est extrêmement bonne pour préserver l'humidité au pied des végétaux, tout en assurant quand même un minimum de protection. Donc ça, c'est très bien. C'était une belle démarche aussi environnementale, écologique, qui était mise en place. Dernier exemple en tête, moi j'ai visité aussi Gravelines cette année, Gravelines dans le Nord. C'est les corons, c'est aussi l'EPR, qui est construit. C'est une zone aussi qui est compliquée en termes de flux migratoires. Et Gravelines, ils ont des espaces à la fois très industriel et très, très urbain, avec des espaces qu'ils ont su reconquérir, je dirais, pour les préserver, pour favoriser la biodiversité. Et d'ailleurs, on leur remet cette année le prix national de la préservation de l'environnement. Ça fait partie des quelques prix que le Conseil national délivre chaque année aux communes qui se distinguent dans un domaine particulier. L'environnement en fait partie.
Un petit mot de la fin pour inviter les communes de 10 à 1 million d'habitants à entrer dans le label.
Vous croyez pas si bien dire, parce que effectivement, je crois que notre plus petite commune labellisée 4 fleurs fait 40 habitants, et la plus grosse c'est Lyon ou Toulouse, puisque maintenant il y a discussion entre le nombre d'habitants des deux villes. Mais en tout cas, on a vraiment toute la gamme, j'allais dire toute la palette de population des communes. Moi, je vous dirais que c'est un label qui est à la fois exigeant, bien sûr, parce que nous n'avons que 4700 communes labellisées en France, mais c'est très bien parce que ça permet d'avoir vraiment un suivi qualité de la démarche, un accompagnement aussi personnalisé sur mesure pour les communes.
Oui, pas un truc qu'on donne comme ça pour faire joli.
Pas du tout. Et objectivement, ça nous intéresserait pas. Je trouve que ça n'aurait pas beaucoup de sens.
Et vous perdez d'ailleurs des communes qui sortent du label parce qu'on leur enlève des fleurs et que ça leur plaît pas.
Et oui, on en perd chaque année parce que bon, il y a aussi des communes qui rencontrent des difficultés passagères, et là on essaie vraiment de les accompagner, de difficultés techniques, financières. On est souple aussi, on regarde, hein, on connaît vraiment ces difficultés-là. Mais oui, chaque année on perd des communes, on en gagne aussi beaucoup, puisque en moyenne, je crois qu'il y a 50 communes qui doivent nous quitter chaque année pour 150 communes nouvelles qui adhèrent à la démarche. Bon, ça fait partie de la vie d'un label, hein, les arrivées, les sortants. Des fois, il faut faire un peu de pédagogie, rappeler les communes, leur demander pourquoi elles partent, leur expliquer aussi qui on est, rappeler que le label, c'est aussi toute cette boîte à outils techniques aussi qu'on leur met à disposition, des fiches pratiques sur leur espace extranet.
Ouais, c'est ça qui peut les inviter aussi à venir, c'est que vous leur déroulez tout un prêt à agir.
Tout un prêt à agir, un kit de communication pour valoriser aussi leur démarche. Et puis, c'est aussi faire partie, j'allais dire, d'un réseau national très, très bien structuré et très puissant. Et c'est un partage, un échange aussi de bonnes pratiques entre elles, entre les communes. Donc c'est vraiment un label qui est exigeant d'une part pour l'obtenir, mais qui est vertueux dans sa démarche et dans la manière de le valoriser pour la commune, parce que derrière, ça offre quand même une très très belle carte postale de la commune qui le détient.
Très bien, merci Julien Fèvre. On invite les gens à aller voir, il y a un site internet, Ville et Village Fleuri. Vous pouvez aller découvrir tout ça et bien d'autres choses encore. Merci beaucoup Julien Fèvre, au revoir.
Merci, au revoir. Et on est bien sûr à leur disposition, ainsi que les régions et les départements qui font un travail formidable pour nous accompagner localement dans la démarche.
Et on les remercie. Au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.